Les cours du Collège de France, État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, Alain Supiot.
Bien, bonjour. Donc nous avions entamé la dernière fois, là. Ça résonne un peu, non ? Non. Nous avions entamé l'étude de l'accord annexé aux accords de Marrakech de l'OMC sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Et l'article 27 de cet accord, comme nous l'avions vu, applique de façon générale la brevetabilité à tous les produits, sans faire d'exception particulière pour les produits de santé. Et dès lors, une double obligation pèse sur tout État membre de l'OMC. La première est substantielle et consiste à reconnaître pour toute invention pharmaceutique un droit de brevet d'une durée minimale de 20 ans. Et cette durée minimale, par dérogation aux règles applicables aux autres marchandises, peut être allongée par les États qui souhaitent renforcer la protection de leur industrie. Donc c'est 20 ans minimum, mais on peut allonger les droits de propriété industrielle sur les produits pharmaceutiques. La seconde obligation qui découle de cet accord pour les États est de nature procédurale. Ces États doivent prévoir des procédures judiciaires qui permettent aux tribunaux du territoire ayant délivré le brevet de sanctionner les contrefaçons. Et toute la troisième partie de l'accord à DEPIC est consacrée à ces procédures qui obéissent aux dispositions générales suivantes. Alors, excusez-moi, oui, c'est ça, c'est l'article. Bon, alors j'ai l'impression que j'ai loupé un. Il me manque un truc. C'est les dispositions de l'article 41. Les membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord. Donc, ces procédures doivent être loyales, équitables, elles ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses, et elles ne comportent pas de délais déraisonnables, ni n'entraînent de retard injustifié. Donc, comme vous le voyez, nous ne sommes pas ici dans la soft law, mais dans le hard, et cette rigueur tranche avec le sort qui est réservé par l'OMC aux droits sociaux. Puisque, hors de très rares exceptions sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, notamment les produits du travail forcé, la violation des droits sociaux dans la fabrication d'un produit ne peut pas être invoquée pour interdire sa commercialisation et son exportation. L'argument invoqué dans le système OMC pour ne pas permettre cette limitation à l'accès au marché résultant des conditions sociales de fabrication, cet argument consiste à dire que les seules limites admissibles à des restrictions d'importation concernent les produits eux-mêmes et non pas la manière dont ils ont été fabriqués. Ceci en vertu de la distinction d'une distinction du product and process, du produit et du processus de fabrication. Donc, tout ce qui touche aux qualités substantielles du produit peut être opposé pour fonder une mesure de restriction d'accès au marché, mais rien, en principe, à quelques exceptions près encore du système OMC, de ce qui concerne les conditions de fabrication. Cette distinction a été critiquée à bon droit par un certain nombre d'auteurs, mais dès lors qu'elle est en vigueur, elle est à être critiquée notamment en matière d'environnement, puisque des produits qui ont pu être fabriqués en contradiction avec les contraintes environnementales ne peuvent pas, en principe, être interdits d'accès pour cette raison. Mais dès lors que cette règle est en vigueur, elle devrait s'appliquer pleinement à la propriété intellectuelle. Et vous voyez ici la contradiction qu'il y a dans ces règles du commerce international, puisque un produit qui serait importé en violation des droits de propriété intellectuelle, du point de vue de ses qualités mêmes, si c'est une bonne contrefaçon, il a exactement les mêmes qualités qu'un autre produit. Donc si on appliquait à la propriété intellectuelle le même raisonnement qu'en matière sociale et environnementale, on dirait vous ne pouvez pas opposer à la vente sur votre marché le fait que ce produit a été fait sans respect des droits de propriété intellectuelle en vertu du même raisonnement, product process, qui est appliqué aux conditions sociales de fabrication. Mais tel n'est pas le cas, ce qui manifeste une fois de plus le caractère artificiel de l'opposition des droits de première et de seconde génération et l'idée selon laquelle seuls ces derniers seraient suspendus à une intervention positive des États. Alors ce dispositif de mise en œuvre judiciaire de la propriété industrielle est d'autant plus puissant qu'il se conjugue avec des procédures de sanctions prévues par l'OMC à l'encontre des États qui ne respectent pas les accords de Marrakech. Donc nous avons les dispositions particulières de l'article 41 qui doivent être implémentées dans chaque État, qui permettent donc d'exercer des actions au bénéfice des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Et en plus, il y a le système de sanctions internes à l'OMC entre États. Alors, en principe, ces procédures de sanctions ne sont... Elle ne concerne que les États qui estiment que leurs intérêts sont lésés. Et en principe, seuls les États peuvent saisir le système de règlement des différends de l'OMC. Mais en réalité, diverses voies juridiques ont été ouvertes pour permettre aux opérateurs privés, c'est-à-dire en pratique aux entreprises transnationales, de déclencher cette saisine du juge du commerce international. Ceci est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en Europe, où un règlement... Alors là, il faut que je remette un peu d'ordre dans mes... Voilà, le règlement. On avait pris du retard, c'était ça l'article 41. Excusez-moi, j'avais sauté une diapositive. Donc un règlement adopté en 1994 a institué une procédure de plainte qui peuvent être déposées à la Commission pour dénoncer un obstacle aux échanges commerciaux internationaux. Et ces plaintes peuvent être déposées, dit le règlement, au nom d'une industrie de l'Union européenne, d'une ou plusieurs entreprises de l'Union, ou encore par un pays de l'Union, pour dénoncer des obstacles aux échanges. Donc, vous voyez, c'est un moyen qui permet aux entreprises de déclencher les mécanismes contentieux internes à l'OMC en déclenchant une action de l'État. Et c'est ouvert donc à toute entreprise de la communauté. C'est une sorte de procédure de filtrage, mais aussi de déclenchement de ce type d'action. Et en pratique, presque toutes les affaires qui ont été portées devant les organes de l'OMC l'ont été ainsi à l'initiative de grandes entreprises dont, dès lors, les États ne sont que les porte-voix. Et vous remarquerez que nous avons ici une nouvelle manifestation du statut hybride qui est aujourd'hui conféré par le droit international aux grandes entreprises puisqu'elles peuvent le mobiliser. Vous savez qu'en principe, en droit international, les seuls sujets du droit international sont les États, mais ce type de dispositif, comme ce règlement, permet en réalité aux entreprises de mobiliser le droit international sans être en revanche, directement tenu à son observation, puisque là, c'est la soft law que nous avons étudiée dans les cours précédents. Vous imaginez ce que permettrait la transposition de ce type de mécanisme aux droits sociaux. Ça ouvrirait évidemment, si on faisait de la même chose pour les droits sociaux, des perspectives crédibles de respect de ces droits à l'échelle internationale. Imaginons, puisque faisons un effort d'imagination, que l'OIT se dote du tribunal qui est prévu par sa constitution, on pourrait imaginer que ce tribunal soit ainsi saisi de la violation des normes internationales du travail à l'initiative des syndicats, moyennant des filtres du même genre que ceux du règlement 1994 en matière de propriété intellectuelle, c'est-à-dire un dépôt préalable d'une plainte qui contiendrait les éléments de preuve suffisantes quant aux violations alléguées. Évidemment, rien de tout cela n'existe dans matière sociale. Donc, la création de l'OMC exerce ainsi à l'échelle mondiale un peu le même effet que les quatre libertés de circulation, circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes, à l'échelle européenne. Ça conduit à ériger le droit du marché en une sorte de droit constitutionnel mondial qui, du coup, déclasse les droits sociaux en droits de seconde zone, d'interprétation restrictive et dont la mise en œuvre ne concerne que les États. C'est le cas notamment parmi ces droits sociaux du droit à la santé des populations qui figurent dans l'accord ADEPIC comme une exception à la règle d'interprétation restrictive et dont les États ne peuvent user que sous le contrôle et la menace de recours devant le juge du commerce international. Alors, ces exceptions telles qu'elles sont prévues dans l'accord ADEPIC correspondent à autant de bases juridiques et peuvent prendre trois formes. La première, alors c'est un petit peu technique là, excusez-moi, mais on est obligé de rentrer un peu dans les détails. La première exception consiste dans une exclusion de la brevetabilité et elle figure donc au paragraphe 2 et 3 de l'article 27. Selon ces dispositions, les membres peuvent exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire. Alors, les motifs, c'est pour protéger l'ordre public ou la moralité. La notion de moralité donne lieu à d'importants développements, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation. Vous voyez que ici, l'État ne peut se contenter d'interdire cette exploitation, il doit prouver la nécessité de cette interdiction. Et cette exclusion peut concerner aussi les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales, ainsi donc que les végétaux et animaux, autres toutefois que les micro-organismes. Mais dans ce cas aussi, ces dérogations, c'est sous des conditions restrictives qui préservent la brevetabilité, notamment des OGM. La deuxième exception, elle, est prévue à l'article 30 de l'accord et ça consiste dans des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet. Donc ici encore, les conditions sont draconiennes puisque ces exceptions ne doivent pas, je cite l'article 30, porter atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet. Donc ça, c'est des exceptions au droit exclusif. La troisième exception, c'est celle sur laquelle il faut s'arrêter un tout petit peu plus, c'est celle qui concerne le plus directement l'industrie pharmaceutique. Elle concerne ce qu'on appelle l'octroi de licences obligatoires, c'est-à-dire de licences par lesquelles un État permet à un industriel de fabriquer un médicament sans avoir obtenu une autorisation du titulaire du brevet. Donc vous êtes dans un État, vous considérez que pour la santé de la population, il faut qu'un médicament puisse être mis à disposition dans des conditions économiques abordables, donc vous allez autoriser un industriel, c'est l'État qui délivre, donc ce qu'on appelle une licence obligatoire, elle est obligatoire parce qu'elle s'impose au titulaire du brevet qui se trouve ainsi privé de ses droits. Alors au terme de l'article 31 de la DEPIC, un État membre peut être autorisé à délivrer de telles licences à condition d'avoir commencé par rechercher un accord avec le titulaire du brevet et en cas de situation d'urgence nationale ou d'autres situations d'extrême urgence. Cette autorisation doit être limitée dans le temps et elle n'emporte pas le droit d'exporter les produits ainsi fabriqués. C'est ce qui figure, vous le voyez, à l'article F31F de l'accord ADEPIC. cet article ne vise pas explicitement les produits de santé. Et c'est ce qui a conduit, après la conclusion de l'accord, les États-Unis et aussi l'Union européenne à dénier l'applicabilité de cette disposition aux produits de santé, c'est-à-dire à dire cet article n'autorise pas les États membres de l'OMC, ça ne les autorise pas à délivrer des licences obligatoires en matière pharmaceutique. Alors, ça a donné lieu à un important contentieux dans lequel je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Notez seulement que ça a pris le tour d'un bras de fer politique entre les pays du Nord, un Nord un peu symbolique, les pays, disons, le monde euro-américain d'une part, et les pays du Sud d'autre part. Nous avons vu comment le gouvernement américain était pressé, notamment par l'Académie des sciences et aussi par ses industries pharmaceutiques, d'engager des actions pour défendre les droits de propriété intellectuelle dans le domaine pharmaceutique. Ainsi poussé, les États-Unis avaient engagé une action devant le tribunal de Pretoria, en Afrique du Sud, pour obtenir la condamnation du gouvernement de M. Mandela, qui était au gouvernement à l'époque. Ce gouvernement avait accordé des licences obligatoires afin de lutter contre la pandémie du sida. Il faut savoir qu'à l'époque, le sida affectait plus de 4 millions de personnes, soit 10% de la population sud-africaine. D'ailleurs, selon un rapport ONU-DISA de juillet 2002, d'ailleurs, 95% des séropositifs vivaient dans les pays du Sud, mais seulement moins de 4% avaient accès à un traitement. D'où l'urgence sanitaire pour ces pays du Sud de produire les médicaments qui permettaient de soigner les malades. C'était le cas de l'Afrique du Sud, ça a été aussi le cas du Brésil. Et donc des poursuites ont été engagées par les États-Unis contre le Brésil devant l'organe de règlement des litiges de l'OMC pour obtenir, là encore, l'interdiction des mesures de lutte contre la pandémie. Alors, ça a suscité un puissant mouvement de protestation et de solidarité internationale contre cette prétention américaine, en l'espèce, de vouloir interdire aux États de rendre accessibles les médicaments contre le sida. Et il y a eu, ça mérite d'être souligné parce que c'est très rare dans la période récente, des mouvements d'action collective internationale visant à défendre des droits sociaux. Mais sur le droit de la santé, nous avons cet exemple. Et le gouvernement indien a décidé de se porter en quelque sorte au secours des autres pays du Sud émergents. Et l'Inde, qui avait décidé, elle, d'utiliser au maximum les délais accordés aux pays du Sud après la ratification des accords ADEPIC, donc elle n'était pas encore juridiquement tenue de les mettre en œuvre, a produit massivement les médicaments concernés, et notamment l'entreprise indienne Cipla, dont je vous ai parlé, je crois, la dernière fois, proposa de fournir à l'Afrique du Sud une trithérapie à $600 par an et même à Médecins Sans Frontières pour $350 par an au lieu des $15,000 qui étaient pratiqués par les laboratoires américains. Et ce mouvement fut assez puissant pour être relayé par le secrétaire général des Nations Unies, ce qui contraignit les majors pharmaceutiques et leurs relais gouvernementaux à reculer. Et cela a obligé l'OMC à assouplir sa position en matière de propriété industrielle sur les médicaments. Elle l'a fait dans une déclaration, dite déclaration de Doha, dont l'apport essentiel a été d'admettre que des impératifs de santé publique étaient de nature à justifier le recours aux dérogations que je viens d'évoquer, prévues par les articles 30 et 31 de l'ADEPIC, en dépit du silence de ces articles sur ce sujet précis. Alors, au terme de cette déclaration, qui a été adoptée le 14 novembre 2001,
ces déclarations commencent par reconnaître la gravité des problèmes de santé publique liés au sida, continuent en disant qu'il est nécessaire que l'accord ADEPIC fasse partie de l'action nationale et internationale visant à remédier à ces problèmes. C'est un point important à souligner parce que ça veut dire que les règles du commerce international ne doivent pas être interprétées, selon la déclaration de Doha, comme un ensemble cloisonné vis-à-vis des autres dispositions en matière internationale, et notamment des dispositions sanitaires. Mais le raisonnement pourrait s'appliquer en d'autres domaines et en matière environnementale ou sociale, si la pression politique était du même ordre. Ensuite, le paragraphe 3 est un coup de chapeau rendu au fait que, mais c'est un point sur lequel nous allons venir, la protection de la propriété intellectuelle est très importante pour le développement de nouveaux médicaments. Et ensuite, on arrive dans les décisions proprement dites. Tout en réitérant l'attachement à l'accord ADEPIC, on affirme que ledit accord peut et devrait être interprété et mis en œuvre d'une manière qui appuie le droit des membres de l'OMC de protéger la santé publique et en particulier de promouvoir l'accès de tous aux médicaments. Donc c'est une avancée, vous me diriez, ça paraît un peu basique comme énoncé, mais en réalité c'est donc le fruit de cette action internationale importante. Alors, l'accord de Doha prévoit donc un certain nombre de flexibilités sur cette base qui inclut 1. L'application des règles coutumières d'interprétation du droit international public. Ça aussi, c'est assez important. Ça a une portée plus générale que la question simplement pharmaceutique parce que c'est-à-dire que d'une façon générale, tout le système OMC est soumis à ce qu'on appelle le droit coutumier international. Et puis il y a explicitement la reconnaissance d'un droit d'accorder des licences obligatoires et du droit de déterminer ce qui constitue une situation d'urgence nationale. Donc, c'est l'État étant responsable au regard des règles de l'OMC, de l'OMS, de la santé de sa population, c'est l'État qui est souverain pour décider ce qui est une situation d'urgence nationale. Donc, encore une fois, cette déclaration est assez remarquable, puisqu'elle montre qu'une action collective peut endiguer un processus d'extension de la logique marchande à tous les aspects de la vie humaine et mettre un frein à la disqualification corrélative des droits sociaux. Elle a été mise en œuvre, cette déclaration, par l'adjonction en 2005 à l'accord ADEPIC d'un article 31 bis qui précise les conditions dans lesquelles il est possible d'exporter des médicaments fabriqués sous licence obligatoire. Et ces dérogations sont soumises à des conditions particulièrement strictes, et notamment ce dispositif ne peut bénéficier que membres importateurs admissibles, qui sont pour l'essentiel des pays dits les moins avancés. Alors, il ne faut pas, certes, méconnaître l'intérêt et l'utilité des flexibilités qui ont été ainsi apportées, mais il faut aussi reconnaître que, dans le même temps, la déclaration de Doha a entériné le changement de principe directeur du droit international de la santé. Ce droit international de la santé, son principe, c'est désormais la brevetabilité des médicaments, et c'est simplement de façon dérogatoire qu'on va pouvoir mettre de côté les droits de propriété industrielle. C'est ce qu'ont tenu à rappeler l'OMS et l'OMC dans une étude conjointe qui a été publiée après l'adoption de la déclaration de Doha et que vous pouvez trouver facilement, si ça vous intéresse, sur Internet. Cette déclaration de Doha ne règle évidemment pas tous les problèmes née de la primauté désormais accordée au droit de propriété intellectuelle au détriment du droit visé par la constitution de l'OMS de tous les peuples à accéder aux bénéfices thérapeutiques des progrès de la connaissance scientifique. Alors, je suis concentré sur les questions de propriété intellectuelle, donc je ne vais pas aborder l'ensemble des sujets liés à l'action de l'OMS, mais en particulier reste ouvert la question de la pratique qui est devenue fréquente de l'appropriation par les laboratoires des pays du Nord de connaissances issues de la médecine traditionnelle. C'est une pratique très répandue. Donc, il y a des formes de médecine traditionnelle, que ce soit en Afrique, en Inde, en Chine, enfin, avec les Chinois, on se méfie beaucoup plus. Et il y a une pratique qui consiste à aller breveter, évidemment, les médecins traditionnels africains ou la médecine ayurvédique ne prenaient pas de brevet. Ce n'était pas dans la culture, pas plus que sur les produits cosmétiques, dont les recettes pouvaient être remontées au Veda. Enfin, il n'y a pas idée de breveter des choses pareilles. Donc les laboratoires viennent et déposent des brevets sur des connaissances qui étaient déjà acquises et dont l'efficacité thérapeutique était connue de longue date. En effet, alors ça c'est possible aux États-Unis, en Europe, parce que le droit américain des brevets permet de considérer comme nouvelle une connaissance de ce genre dès lors qu'elle concerne un pays étranger et n'a pas donné lieu à publication. Si c'était une connaissance traditionnelle sur le sol américain, ça ne pourrait pas marcher. Mais dès lors que c'est à l'étranger, si ça n'a pas donné lieu à une publication scientifique, on considère que ça peut être breveté. Donc ça, c'est un problème qui reste ouvert. Autre exemple, la déclaration de Doha ne permet pas davantage de lutter contre la pratique qui est elle aussi autorisée en droit américain de ce qu'on peut appeler les fausses nouveautés, qui consistent à faire breveter de nouvelles applications de produits qui sont déjà connus. Donc vous avez déjà un brevet sur un médicament, puis vous dites « Ah oui, mais ce médicament peut servir aussi à soulager, je ne sais pas moi, à améliorer la circulation sanguine, ce qui n'était pas indiqué dans le premier brevet. » Donc du coup, hop, on reprend un brevet et ça prolonge la durée de la propriété. On repart pour 20 ans, si vous voulez, de propriété intellectuelle. Et ça permet de reconduire indéfiniment la propriété industrielle sur une molécule donnée sans qu'elle tombe dans le domaine public et en évitant donc ainsi la production de médicaments génériques. Alors vous me direz, tout cela est quand même étrange, alors que la constitution de l'OMS dit que les découvertes scientifiques et techniques doivent profiter à tous, comment en est-on arrivé à justifier cette primauté du droit de la propriété industrielle sur les règles de protection de la santé. Alors, le grand argument avancé pour admettre la brevetabilité des médicaments consiste à dire que celle-ci est de nature à encourager la recherche de nouvelles molécules. Et donc, sans cette carotte financière, c'est plus qu'une carotte, d'ailleurs, c'est des sommes, il est vrai, très importantes, eh bien, il y aura une panne de la recherche et donc ça serait au détriment des progrès de la santé. Vous trouverez cet argument martelé par exemple par la Commission européenne dans une communication sur le secteur pharmaceutique qui date de 2009 où c'est vraiment c'est la base de la position prise par la Commission. Cet argument est aussi véhiculé par une partie des économistes qui se fondent sur le nombre de brevets déposés pour mesurer l'innovation technologique, donc pour établir un lien entre innovation et brevets. Et des travaux récents établissent ainsi une corrélation même entre les progrès bienfaisants de l'innovation, mesurés sur cette base du nombre de brevets déposés, et l'augmentation de la part des revenus perçus par les plus riches aux États-Unis. Donc, l'argument, c'est cette courbe qui montre une corrélation statistique entre l'augmentation des inégalités et des richesses des 1% les plus riches, et puis d'autre part, le développement d'innovations mesurées par les dépôts de brevets. Donc l'argument sous-jacent tendrait à prouver que l'augmentation des inégalités est le prix à payer pour jouir des bienfaits de l'innovation. Alors, je n'ai pas le temps de discuter ce point ici, mais je me bornerai dans la perspective ouverte par ce qu'a été notre exploration de la gouvernance par les nombres, à rappeler la normativité insue qui est véhiculée par les représentations mathématiques de ce genre. Et vous observerez que ici, lorsque on mesure l'innovation par le nombre de brevets, ça consiste à convertir un dispositif juridique, le droit des brevets, en un instrument de quantification. On mesure la quantification du progrès technologique. Or, cette conversion n'est pas le seul fait des économistes. Elle se trouve plus généralement à l'œuvre dans le New Public Management, qui fait lui aussi du nombre des brevets l'un des indicateurs des performances de la recherche publique. Actuellement, dans les, si vous regardez dans les indicateurs notamment de la LOLF, ce qui doit guider l'attribution des crédits, la hiérarchisation des laboratoires, le placement dans le benchmark de la recherche française par rapport au reste du monde, le nombre des brevets est toujours l'un des indicateurs retenus. Or, du point de vue juridique qui est le nôtre ici, dans cette salle en tout cas, ce type de conversion appelle deux remarques. La première, c'est le refoulement qui a été bien mis en lumière par les travaux d'Alain Desrosières, dont j'avais eu l'occasion de parler, des conditions d'équivalence qui président à la quantification. On sait par exemple que les procédures de dépôt de brevets sont à la fois beaucoup plus exigeantes et beaucoup plus coûteuses en droit européen qu'en droit américain. Ce dernier est beaucoup moins exigeant, notamment quant à la nouveauté de l'invention brevetée. Il en est de même en droit australien, par exemple, où un plaisantin est même parvenu en 2001 à faire breveter l'invention de la roue. Alors, vous avez ici la copie du brevet. Alors, dès que l'affaire a été éventée, on a retiré, trois semaines après, on lui a retiré son brevet, mais vous avez une description, d'ailleurs très convaincante, en anglais, de la découverte de la roue. Alors, vous voyez que les bases de la quantification, ici, on retrouve les opérations de qualification statistique que j'avais évoquées assez longuement à propos de la gouvernance par les nombres. Et c'est l'un des problèmes de la représentation quantifiée lorsqu'elle oublie les opérations de qualification sur lesquelles elle repose. Donc ce n'est pas la même chose, par exemple, si on mesure l'innovation à partir d'un certain droit des brevets ou d'un autre en fonction de l'exigence des contrôles en matière de nouveauté. La seconde remarque que m'inspirait ce graphique que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la force normative des images. Nous l'avions décrite déjà il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, à propos des images comptables qui sont censées donner c'est l'image comptable, l'image vraie de la situation d'une entreprise. On le retrouve ici, c'est-à-dire à l'instar des icônes religieuses, les images statistiques sont un mode d'accréditation d'une vérité et elles permettent de souder une communauté de fidèles autour d'une représentation commune. Et cette force d'accréditation par l'image suppose toutefois de ne pas être démentie par l'expérience qu'on avait vue dans l'affaire Enron, c'est-à-dire quand les gens cessent d'y croire à l'image comptable, c'est la débandade à ce moment-là. Or, en matière de découverte et d'innovation, l'expérience historique ne va pas précisément dans le sens d'une corrélation avec l'extension des droits de propriété industrielle. Bon, il y a des travaux en ce domaine, mais là je sortirai de la perspective juridique, mais enfin, qui montre une certaine panne des véritables découvertes technologiques au profit de simples développements de découvertes qui ont été faites il y a un certain nombre d'années. Mais plus généralement, il convient de souligner les risques qu'il y a de déduire d'une corrélation statistique une causalité socio-économique. Car ces risques sont aujourd'hui démultipliés par la foi aveugle dans la puissance de ce qu'on appelle les big data. Donc, je vous dis un mot des big data, puisque c'est un bon exemple, là aussi, de gouvernance par les nombres. On dit, enfin là, nous avons des connaissances, tout est quantifié, on a des bases de données énormes. Et selon certains auteurs, par exemple Chris Anderson, un auteur américain, il a écrit que si l'on dispose de suffisamment de données, Il écrit, alors j'ai ça en anglais, les nombres parlent d'eux-mêmes et la corrélation l'emporte sur la causalité et la science peut avancer sans modèle cohérent ni théorie unifiée. Voilà ce que... Alors, la méthode scientifique consistant à poser des hypothèses à partir d'observations et d'établir des liens de causalité serait ainsi rendue obsolète par les possibilités nouvelles qu'offriraient d'énormes bases de données permettant d'observer des régularités. Si j'en dis un mot, c'est que c'est tout à fait au cœur des choix de politique de la recherche qui sont faits, y compris dans notre pays. Donc il y a une foi dans le fait que les big data vont nous permettre de régler énormément de problèmes. Alors ces bases de données sont certes des ressources très importantes, très puissantes, mais de là à dire que ça doit permettre de faire l'économie de la pensée, il y a un pas qu'il est dangereux de franchir, comme nous l'ont montré dans un article récent. Deux mathématiciens, Christian Caloud et Giuseppe Longo, ils ont montré, et après on va revenir à nos moutons, mais je faisais cette petite digression sur les big data et les corrélations entre la quantification des brevets. Ils nous ont montré qu'il n'y avait qu'une illusion dangereuse, car on sait mathématiquement, cela a été prouvé, que dès lors qu'on dispose d'une base de données suffisamment grandes, éventuellement gigantesques, n'importe quelle corrélation peut y être établie. Donc, pourvu qu'on se dote d'une série de données suffisamment grandes, alors ça a été prouvé en les mathématiques, si la donnée est assez gigantesque, on pourra toujours y trouver la corrélation que l'on recherche. Et il donne un exemple particulièrement savoureux de ce qu'ils appellent des corrélations spécieuses. C'est cette courbe qui montre le lien étroit qui peut être établi dans l'état du Kentucky entre la baisse du taux de mariage et celui des noyades pendant des parties de pêche. Notez que j'ai dit à Longo, sait-on jamais. Mais ça demande quand même à être réfléchi. En revanche, nul ne peut contester. Donc, si vous voulez, ce lien, et je vais y revenir dans un instant, parce qu'il y a toute une partie de la recherche économique qui conteste cette idée qu'il y aurait un lien mécanique entre le développement des droits de propriété intellectuelle et l'essor de l'innovation. Mais il n'y a pas besoin même d'avancer cet argument pour constater qu'historiquement, l'extension du domaine de la brevetabilité s'est traduite par une forte augmentation du prix des médicaments et une difficulté croissante des plus démunis pour y accéder. Ainsi, par exemple, le laboratoire américain Gilead a négocié en 2014 avec le ministère français de la Santé un accord qui fixe à 41 000 euros le montant de 3 mois de traitement. Alors, c'est un traitement efficace de l'hépatite C. C'est efficace dans 90% des cas. Donc, le laboratoire a dit je vous le vends pour les malades couverts par l'assurance sociale en France. Donc c'est 41 000 euros le traitement de 3 mois par un nouveau médicament qui s'appelle le Sovaldi. Et ce montant est entièrement pris en charge par la Sécurité sociale et on estime le nombre de bénéficiaires potentiels à 350 000 patients. Donc là vous voyez aussi un autre effet qui est souvent masqué, c'est que ce qui permet aussi cette montée des prix, c'est la solvabilisation de la demande par la mutualisation des coûts autorisée par la sécurité sociale, qui contribue ainsi à cette élévation des prix, même si on peut dire d'un autre côté qu'un système de solidarité nationale comme l'assurance maladie en France se trouve placé dans un réel pouvoir de négociation vis-à-vis des industries pharmaceutiques. Par exemple, récemment, le système national de santé britannique vient de refuser l'introduction d'un médicament parce qu'il n'avait pas obtenu un prix qui lui paraissait convenable. Mais vous voyez qu'il y a cette intrication entre règles du marché, progrès de la découverte scientifique, et puis le rôle important que peuvent jouer dans les pays du Nord les systèmes d'assurance maladie. C'est extension des profits, notamment dans les pays du Nord, conduit la recherche pharmaceutique à se concentrer sur les secteurs les plus lucratifs, qui sont justement ceux des pays riches. Le marché des médicaments s'élevait ainsi en 2002 à plus de 400 milliards de dollars, dont 53% en Amérique du Nord, 23% en Europe, 13% au Japon, et seulement 11% pour l'ensemble comprenant l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. Et 85% des investissements des multinationales de la pharmacie visent des maladies qui sévissent dans les pays riches, 5% seulement les maladies des pauvres. Donc derrière l'invocation rituelle de l'encouragement à l'innovation que seule permettrait la marchandisation du savoir, il y a la réalité d'énormes intérêts économiques qui n'entendent pas se laisser priver de rentes de situation que leur accorde la propriété industrielle des médicaments. Et on comprend dès lors la place nodale occupée par ce sujet dans les grands accords de libre-échange qui sont en cours de négociation par les États-Unis. Alors, vous savez, vous avez sûrement entendu parler, et si on a le temps, on en reparlera nous-mêmes, qu'il existe un accord en cours de négociation entre les États-Unis et l'Union européenne, donc un traité transatlantique de libération des échanges, mais il existe aussi un accord semblable du côté pacifique. Sur le traité atlantique, les discussions se polarisent sur la question des clauses d'arbitrage, donc nous aurons l'occasion de reparler. En revanche, dans le traité transpacifique, c'est la question du brevetage des produits pharmaceutiques qui suscite le plus d'inquiétude. Car selon les versions de ce traité, qui est plus avancé, la négociation est plus avancée que le traité européen, il y a eu des fuites de contenu, et ce traité prévoit un renforcement considérable de la protection des titulaires de ces brevets destinés à bloquer la production de génériques par divers dispositifs techniques tels que ce qu'on appelle le patent linkage, ce qui permet de maintenir ainsi la rente de situation des industries américaines. Et le débat fait rage outre-Atlantique actuellement, comme dans les pays asiatiques. Autour de la négociation de ce traité, qui utiliserait donc la possibilité pour l'OMC, ouverte dans les accords OMC, de renforcer la protection de la propriété industrielle, d'avoir des protections encore plus grandes. L'argument avancé par les négociateurs américains, c'est celui que nous venons d'évoquer, c'est le même, c'est celui de l'encouragement de l'innovation. Donc il faut permettre l'innovation, et donc plus on protège la propriété industrielle, plus il y aura de recherche et ça sera in fine bénéfique à tout le monde. Et voici en quels termes cet argument est écarté par le fameux économiste Joseph Stiglitz. Je vous le traduis. Considérons les dispositions de l'accord, il s'agit de l'accord transpacifique, visant à étendre les droits de propriété intellectuelle telles qu'elles figurent dans les versions du texte qui ont fuité. Alors, il dit, la recherche économique montre clairement, je dis une certaine recherche économique, puisque je vous ai montré il y a 10 minutes des tableaux qui visaient à dire le contraire. Enfin, c'est le preuve de la vitalité de la recherche économique, certainement. Ça montre clairement que l'argument selon lequel de tels droits de propriété intellectuelle encourageraient la recherche est dans le meilleur de cas un argument faible. En fait, il y a des preuves du contraire. Lorsque la Cour suprême a invalidé le brevet de Myriad sur le gène BRCA, cela a conduit à une flambée d'innovation, d'où de meilleurs tests à moindre coût. De fait, les prévisions du traité transpacifique se traduiraient par une restriction de la concurrence et une augmentation des prix pour les consommateurs aux États-Unis, dans le monde, au mépris des principes de base du libre commerce. Le traité soumettrait le commerce des produits pharmaceutiques à une série de nouvelles règles compliquées sur des sujets tels que le brevet du princeps, l'exclusivité de données ou les biomédicaments, avec pour résultat de permettre aux firmes pharmaceutiques d'étendre parfois indéfiniment leur monopole sur les médicaments brevetés, d'exclure les médicaments génériques du marché et d'empêcher pendant des années la fabrication de médicaments biosimilaires. Voilà comment le traité transpacifique régulera l'industrie pharmaceutique si les États-Unis obtiennent ce qu'ils veulent. Fin de citation. Donc vous voyez que, je le répète, il y a tout un pan de la recherche économique qui discute cette idée de base selon laquelle l'extension des droits de propriété intellectuelle serait bénéfique pour la protection sanitaire à l'échelle mondiale. Alors, ce coup de projecteur sur la question de la profitabilité des médicaments n'épuise évidemment pas le sujet de la mise en œuvre internationale du droit de la santé, et j'aurais pu évoquer d'autres questions, par exemple le rôle joué par les institutions financières internationales, que ce soit le FMI ou la Troïka. Ces institutions, en imposant dans des plans d'ajustement structurel ou des plans d'austérité comme celui que connaît actuellement la Grèce, qui imposent des coupes drastiques dans les systèmes de santé et qui placent ces États dans l'impossibilité de remplir les obligations qui sont les leurs au regard de l'OMS, puisqu'ils sont responsables de la santé de leur population. Mais si vous êtes responsable de la santé, il faut engager des dépenses. Et si on vous dit d'un autre côté, il faut réduire les dépenses, vous arrivez à des situations comme celle que je crois qu'on a déjà évoquée en Guinée, où lors de l'épidémie d'Ebola, il a été montré que l'ampleur prise par cette épidémie était liée à l'effondrement du système de santé des pays concernés, qui était lui-même le résultat des politiques de démantèlement des institutions publiques de santé qui avaient été imposées par le Fonds monétaire international. Et il y a à craindre, dans le cas grec, que puisqu'on a déjà un ensemble de statistiques en termes de mortalité, de pathologie, de retour de maladies qui avaient disparu, qu'on ait affaire à des effets aussi négatifs. Vous trouverez tous ces aspects développés dans la contribution de Daisy Ventura au livre qui était tiré de notre séminaire de juin dernier. Il y a son chapitre « Responsabilité et santé globale » qui fait le tour de ces problèmes et aussi les problèmes, elle évoque aussi les problèmes de conflit d'intérêts des experts qui travaillent au sein de l'OMS. Donc vous avez peut-être entendu parler, donc il y a toute la thématique juridique des conflits d'intérêts a connu une vigueur nouvelle après les révélations qui ont été faites dans le contexte de l'épidémie de grippe H1N1 de 2009. Et enfin, pour en finir avec l'OMS, son rôle aujourd'hui, extrêmement utile évidemment, mais est concurrencé par l'action de grandes fondations privées, telles que la fondation Bill Gates, dont le budget représente 1/8 du budget de l'OMS, mais dont les priorités ne font l'objet d'aucune espèce de concertation internationale. Alors, on reviendra sur certaines de ces questions au cours du séminaire, et notamment lors de l'intervention de Madame Samantha Besson, qui nous parlera des questions de responsabilité des institutions internationales au mois de mars. Voilà, j'ai terminé avec les questions d'OMS, et il ne me reste plus qu'une organisation internationale à évoquer dans le domaine des droits sociaux, qui est l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Donc on change de registre. Je vais essayer d'être peut-être plus bref, parce que le temps commence déjà à nous manquer. Mais lorsqu'on parle des droits économiques, sociaux et culturels, ils sont liés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et nous allons voir qu'au travers des questions culturelles, on touche directement des problèmes de justice sociale et notamment de ce que nous avons appelé la justice sociale recognitive, la reconnaissance de l'égale dignité des cultures. Alors l'UNESCO a été créée le 16 novembre 1945, elle a son siège à Paris, comme vous le savez, et sa mission est de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité, en resserrant par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre les nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, oui, on peut pas, voilà un objectif louable, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue et de religion. Voilà l'objectif. Les droits culturels dont elle doit promouvoir l'exercice ont été inclus après sa création, puisqu'elle est créée en 1945, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui leur consacre ses articles 26 et 27. Alors, ces articles sont intéressants à commenter. L'article 26 concerne le droit à l'éducation, et il est indiqué que l'éducation, notamment, doit viser, alors on décline l'enseignement élémentaire, l'enseignement technique, l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vous noterez l'ambivalence du droit à l'éducation de l'article 26. Participant des droits de l'homme, il doit aussi les servir en assurant leur promotion en tant que corpus dogmatique universel. C'est-à-dire que le droit à l'éducation, c'est aussi le moyen de faire en sorte que tous les êtres humains sur la planète se convainquent de la nécessité du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vous noterez également dans l'article 27 la tension entre le droit de toute personne à jouir des arts et de bénéficier des progrès de la science, c'est l'alinéa 1 de l'article 27, et puis l'alinéa 2 sur la protection des intérêts matériels qui découlent de la propriété intellectuelle. Donc on retrouve ici la même antinomie que celle que nous avons évoquée à propos des connaissances médicales et pharmaceutiques, qui sont à la fois un bien public et un objet possible de propriété privée. Donc, c'est l'UNESCO qui doit veiller à la mise en œuvre et à la conciliation de ces différents droits. Et à cette fin, elle dispose d'un certain pouvoir normatif. Bon, son organigramme n'est pas très original, donc on a une conférence, un exécutif, et la conférence générale réunit les représentants des États membres, et elle peut adopter des recommandations, mais aussi, à la majorité des deux tiers, des conventions internationales qui doivent être soumises à la ratification des États. Donc on a un mécanisme qui peut évoquer celui de l'OIT, ou la Conférence internationale du travail, sauf qu'elle est tripartite, ce qui n'est pas le cas évidemment à l'UNESCO, adopte des conventions qui sont soumises à la ratification et également à la majorité des deux tiers. La plus remarquable de ces conventions, et c'est celle, la seule dont je vais vous parler, parce qu'elle intéresse le plus directement la question de la justice sociale internationale, c'est la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette convention a été adoptée en 2005. Seuls deux États ont voté contre, les États-Unis et Israël. Et il y a eu 4 ou 5 abstentions. Et donc c'est une convention. Alors vous allez me dire que l'unanimité aurait été sans doute encore plus, donné une base de légitimité plus éclatante, mais enfin, il y a une quasi-unanimité. Elle a été adoptée peu d'années après la création de l'OMC, et ce n'est pas par hasard, c'était pour tenter de mettre un frein à l'assimilation des biens culturels à des marchandises comme les autres, à des marchandises soumises au principe d'appropriation privative et de mise en concurrence. Au terme du préambule de cette convention de 2005, les activités biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu'ils sont porteurs d'identité, de valeur et de sens, et qu'ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale. Bon. Ce qui explique là l'objection américaine. Donc, vous savez que le soft power s'appuie sur la puissance de son industrie dans le domaine culturel et avec tout ce que ça représente en puissance sur le façonnage des représentations imaginaires sur l'ensemble de la planète. Donc, il s'agit de préserver ce que les Français appellent une exception culturelle. Et à cette fin, la Convention énumère, dans son article 2, un certain nombre de principes directeurs. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la souveraineté, l'égale dignité et le respect de toutes les cultures, la solidarité et la coopération internationale, la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement, le développement durable, l'accès équitable et un principe d'ouverture et d'équilibre. Alors, je m'arrête un instant à la place axiologique, fondatrice, qui est conférée dans cette liste aux droits de l'homme, tels que énoncés par la Déclaration universelle ou le droit international. Selon l'article 2, paragraphe 1 de la Convention de 2005, la diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l'homme et les libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression, d'information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente convention pour porter atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, telles que consacrées par la DUDH ou garantie par le droit international, ou pour en limiter la portée. Alors, cette disposition est extrêmement importante. On est sur un nœud central de difficultés contemporaines sur l'édification d'un ordre juridique international. En effet, vous avez l'égal respect qui est dû à toutes les cultures, qui est visé au paragraphe 3 du même article. Mais cet égal respect dû à toutes les cultures ne s'impose que dans la mesure où ces cultures respectent les droits de l'homme, qui se présente ainsi, pour user des catégories de pensée d'Auguste Comte, comme une religion d'humanité. Et on retrouve ici à l'échelle internationale la hiérarchie de ce que je proposerais d'appeler la religion avec un grand R, avec les d'une part, et les religions avec un petit R d'autre part, telle que cette distinction peut être mise en évidence dans n'importe quel ordre juridique national. Cette distinction est capitale du point de vue de l'analyse juridique des débats contemporains sur la justice sociale recognitive et sur le multiculturalisme. Et je vais donc m'y arrêter un instant. Le sens courant du mot religion s'est complètement renversé avec les temps modernes. Jusqu'au XVIe siècle, la religion désignait, jusqu'au XVe, XVIe siècle, en Europe occidentale, une foi publique par excellence, un fort externe et une adhésion à la norme sociale. Et c'est seulement avec la réforme protestante que la religion a commencé de désigner une foi privée, une croyance subjective, qu'on a du reste été très long à admettre et à protéger de toute intrusion publique. Pour les marchands du Moyen-Âge qui négociaient entre Génois et Hollandais, l'autorité du pape était du même ordre que celle de la Cour suprême pour des marchands américains. Il ne s'agit pas de se demander est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas. C'est-à-dire on est dans un système institutionnel qui garantit la valeur de la parole des uns vis-à-vis des autres, qui rend possible le commerce entre les personnes, que ce soit le commerce au sens économique ou au sens social, et vous y croyez, C'est pas le sujet de savoir ce que dans votre fort intérieur, vous pouvez. Ce qu'il faut, c'est extérieurement reconnaître que nous sommes dans un ordre juridique où c'est ceci qui est déclaré vrai et qui doit être respecté. Alors, évidemment, les choses basculent à partir de la réforme, puisque là, il y a des vastes portions du territoire en Europe ne reconnaissent plus cette autorité externe d'une religion avec un grand R, et c'est là que la religion commence à renvoyer un système de croyances intériorisées. Alors, ce basculement est juridiquement capital. Harold Berman en a fait l'histoire de cette révolution juridique, souvent méconnue en France. Je vous recommande ce livre sur l'impact de la révolution protestante. Ça a été traduit chez Fayard, parce que c'est ça qui donne la naissance aux États modernes, c'est-à-dire à des États qui ne sont plus placés sous une autorité avec un grand R, mais qui vont se mettre à incarner eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs de la République. C'est un problème qu'on n'avait pas à se poser dans le monde médiéval, puisque les valeurs, elles étaient incarnées par la papauté. Donc, il y a eu à l'intérieur même de l'histoire occidentale un renversement complet, vous voyez, du sens du mot religion, qui passe d'un sens public, religion que j'appelle avec un grand R, à un sens privé, celui d'une foi subjective. Et le fait de ce qu'on appelle la sécularisation ne supprime pas la nécessité de cette religion avec un grand R, et qu'il faut continuer de distinguer de la croyance subjective. En effet, un régime où chacun entendrait vivre selon sa propre loi religieuse en ignorant les exigences d'une loi commune serait un régime intenable. Donc c'est le point sur lequel nous nous retrouverons la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.